C'est une grande joie pour nous d'être avec vous aujourd'hui pour ce culte. Et je vous transmets les salutations de l'église de la Maison de l'Évangile à Morschwiller-le-Bas, c'est dans la banlieue de Mulhouse. Mais mon accent me trahit, bien sûr, je ne suis pas mulhousien de souche, mais suisse. Ce qui fait comme ça, vous ne posez plus de questions, vous savez d'où je viens. C'est quelques mois que nous sommes en Alsace. Et on prie pour vous, et c'est une joie pour moi d'être ici et de vous retrouver. Qu'est-ce que l'homme? Si vous étiez dans la rue et que quelqu'un s'adresse à vous et vous dise « Qu'est-ce que tu es ?»« Que sommes-nous » Qu'est-ce que vous lui répondriez? Il y a toutes sortes d'idées par rapport à cette question. Certains ont une idée très élevée de l'homme, et pendant un certain temps en Suisse, une banque avec pour slogan « L'homme est la mesure de toute chose ». D'autres ont une vue très négative de l'homme. Et parfois, si vous écoutez les nouvelles, on a l'impression que l'homme est le pire parasite de l'univers, et que si l'homme n'existait pas, tout irait bien dans cette création. D'autres encore en font un fruit hasardeux, une étape non achevée d'un processus continu d'évolution. Alors, qu'est-ce que l'homme? Qu'êtes-vous? David s'est posé la question et dans ce psaume 8, il nous donne la réponse, ou en tout cas une partie de la réponse. Et je vous rappelle que les psaumes sont des cantiques écrits sous forme de poésie. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'écrire un poème à votre amoureux, à votre amoureuse ou à d'autres, mais ça ne tombe pas du ciel comme ça d'une minute à l'autre. Un poème, ça se réfléchit, ça se mûrit, des fois, il manque un mot, on n'est pas content. Et c'est ça qu'on doit voir quand on lit un psaume. Ce n'est pas quelque chose qui peut me tomber du ciel comme ça. David, il avait cette question à l'esprit. Qu'est-ce que je suis? Et il a planché sur cette question pour donner une réponse poétique, c'est-à-dire une réponse réfléchie à ce que nous sommes, à ce que je suis, moi. Et voilà ce qu'il nous dit. Qu'est-ce que l'homme? Si vous regardez ce psaume, en le lisant, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais vous devriez remarquer que le premier et le dernier verset sont identiques. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. C'est verset 2 en fait, parce que le titre c'est le verset premier. Et puis verset 10, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Pourquoi est-ce qu'en 9 versets, David dit deux fois cette chose-là? Est-ce qu'il est un peu oublieux? Il commence à être un peu âgé, à se répéter? Non. Il a réfléchi à son poème. Et en mettant cette même phrase au premier verset et au dernier, c'est comme s'il voulait, vous voyez, comme encadrer ce qu'il va nous dire à l'intérieur, comme si vous avez un beau tableau que vous mettez au mur, pour lui donner encore plus de valeur, vous choisissez un cadre qui va donner de la valeur à l'image qui est à l'intérieur. Et c'est un peu ce que David est en train de faire. Cette phrase du début et de la fin, « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre », il encadre ce qu'il nous dit à l'intérieur de ces versets. C'est pourquoi je vais garder ce verset 2 et verset 10 pour la fin, ce sera le cadre pour encadrer le contenu du verset que nous aurons, enfin de l'enseignement que nous aurons reçu sur ce qu'est l'homme. Qu'est-ce que l'homme? C'est le titre de cette prédication, est tiré du verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme? Pour nous donner la réponse, David commence par se concentrer sur son créateur, le créateur de l'homme. C'est ce qu'il fait à la fin du verset 2 et au verset 3. Regardez. toi, il parle de Dieu, qui établis ta majesté au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Qu'est-ce que l'homme ? Premier point, pour trouver une réponse, son créateur. Par la phrase de la fin du verset 2, « Toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux », David affirme que ce créateur, notre créateur, est un être qui se distingue de sa création. Il établit sa majesté au-dessus, on pourrait dire au-delà des cieux. Vous voyez ? Dieu, le Dieu en qui nous croyons, n'est pas juste une créature un petit peu plus grande que nous. Il est en dehors de la création. Il est au-delà de la création. Il existait déjà quand rien du tout n'existait. C'est ça l'éternel. C'est un être qui existe depuis toujours. Ne me demandez pas de vous expliquer pourquoi, comment ça se passe, mais c'est comme ça. Il existe depuis toujours. Un être qui ne fait pas partie de la création. Et c'est ce que Paul disait quand il était à Athènes et qu'il prêchait aux philosophes de cette ville. En Actes 17, il dit « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits par la main des hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. » Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre. C'est la fin de la citation de l'apôtre Paul. Vous voyez, notre Dieu est un être tout puissant, comme le déclare le verset 3, il impose silence à ses adversaires par la bouche des enfants et des nourrissons. C'est un peu une manière ironique de nous montrer la puissance de Dieu. Oui. Il nous dit, même les nourrissons qu'il crée sont suffisants pour anéantir les plus puissants ennemis. Il n'y a pas besoin d'aller chercher les créatures les plus fortes pour montrer la puissance de Dieu, même les plus faibles, dans un sens, suffisent à anéantir les ennemis de Dieu. Calvin, en commentant ce verset 3, disait, « Il dit en quelque sorte que les enfants sont les soldats de Dieu qui suffiraient pour mettre en fuite toute l'armée des impies, toute l'armée des incroyants. » Vous voyez, Dieu, notre Dieu, le Dieu de l'univers, n'a pas besoin d'être défendu par des savants. Parce que même les êtres les plus faibles attestent de sa force, de sa gloire. Qui n'est pas ému devant un nouveau-né ? Vous qui avez eu des enfants, vous le savez, n'est-ce pas ? Quand on voit cet enfant qui vient de naître, et qu'on se dit qu'il est issu de deux cellules microscopiques qui se sont jointes l'une à l'autre. Et que tout à coup, 9 mois après, vous voyez ses petits doigts, ses ongles tout fins, ses yeux, ses cheveux, et ce corps entier. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il est grand, celui qui a inventé, entre guillemets, un processus pareil. Qu'est-ce qu'il est glorieux d'avoir pu concevoir une création telle. Et puis ensuite, quand on le voit apprendre à s'exprimer, au début c'est are, are, puis il commence à y avoir des syllabes qui vont ensemble, des mots qui vont ensemble, après on les voit apprendre les lettres, c'est juste glorieux de voir comment Dieu manifeste sa gloire, même par ses êtres les plus infimes, si vous voulez. Et ce que David nous apprend ici, c'est que si nous voulons comprendre et apprendre qui nous sommes, il faut commencer par réfléchir à qui est Dieu. Parce que comme on va le voir tout à l'heure, c'est Dieu qui nous donne notre sens, c'est Dieu qui nous donne notre place dans la création. Et c'est le problème d'aujourd'hui, de beaucoup de nos contemporains, de ceux que vous croisez dans la rue, qui ne savent plus qui ils sont. Ils ne savent plus qui ils sont parce qu'ils se sont détournés de Dieu. Et si vous perdez de vue que Dieu existe et que c'est lui qui nous a créés, vous perdez tout sens à votre vie. La première chose, si vous voulez savoir qui vous êtes, c'est de tourner vos regards vers Dieu. Parce que c'est seulement quand vous avez compris qui est Dieu que vous pouvez comprendre qui vous êtes. Si on rejette Dieu, il n'y a plus d'explication possible à la place de l'homme, à sa valeur dans la création. Écoutez cette citation assez étonnante d'honnêteté de George Wald, professeur à Harvard aux États-Unis, prix Nobel de biologie de 1992. Donc, un savant reconnu et connu. Voilà ce qu'il dit. Il n'y a que deux explications possibles concernant l'apparition de la vie. Deux explications possibles. Une génération spontanée, selon l'évolution, ou un acte créateur surnaturel de Dieu. La génération spontanée a été prouvée erronée par Louis Pasteur et d'autres il y a 120 ans. Ce qui ne nous laisse qu'avec une seule autre possibilité, que la vie est apparue grâce à un acte créateur surnaturel de Dieu. Mais je ne peux pas accepter cette philosophie, parce que je ne veux pas croire en Dieu. Je choisis donc de croire à ce qui est impossible scientifiquement. Une génération spontanée qui génère l'évolution. Vous voyez l'honnêteté de cet homme? Il dit, il n'y a que deux possibilités. Soit on est des êtres venus par hasard, soit on est des êtres créés par un Dieu personnel. Mais je ne veux pas croire en ce Dieu. Donc je décide de croire à ce qui est impossible scientifiquement. Est-ce qu'il est prouvé comme impossible? La génération spontanée. Vous voyez, on est obligé de s'aveugler sur soi-même si on rejette Dieu. Qu'est-ce que l'homme? Vous voulez savoir qui vous êtes? Comprenez d'abord qui est votre Créateur. Qu'est-ce que l'homme? Un être créé par un Créateur éternel, souverain et indépendant de la création. Ensuite, David se plonge sur notre création. Qu'est-ce que l'homme? Son créateur. Qu'est-ce que l'homme? Sa création. Et il fait deux observations qui nous paraissent un peu contradictoires sur notre place dans l'univers. D'abord, regardez, dans les versets 4 et 5, il nous parle de notre insignifiance. L'insignifiance de l'homme. Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Quand on contemple l'univers, surtout la nuit, parce qu'on en voit un petit peu mieux certaines dimensions, la grandeur, quand on observe les étoiles et qu'on essaye de commencer à les compter, on est vraiment frappé par notre insignifiance. Plus les télescopes augmentent en puissance, plus on compte d'étoiles et on n'arrive jamais aux limites de ces étoiles. En me préparant pour cette prédication, j'ai lu un vieux commentaire de 1856, qui disait que la Voie lactée, notre galaxie, comptait 18 millions d'étoiles. Puis ensuite, je suis allé voir dans des ouvrages de scientifiques récents, et ils disent que la Voie lactée compte entre 200 et 400 milliards d'étoiles, c'est-à-dire 10 000 fois plus que ce qu'on connaissait en 1858. Vous voyez, il y a 150 ans, enfin 170 ans, on a découvert que la Voie lactée n'est qu'une galaxie parmi plusieurs centaines de milliards d'autres galaxies qui contiennent tout autant d'étoiles. Et quand on réfléchit à ça, ça nous donne le vertige, vous voyez. Qu'est-ce que je suis, moi, là au milieu, pour que Dieu prenne garde à moi? Et cette question a pour but de nous amener à découvrir notre insignifiance. Parce que quand on réfléchit à ça, à ces milliards de galaxies, ces milliards de milliards de milliards d'étoiles, on se dit, mais je ne suis même pas une poussière dans cette création incroyable. Je suis une poussière ridicule, moins que rien. En fait, on n'est même pas grand-chose si on se compare aux autres créatures terrestres. On n'est de loin pas les plus grands et les plus forts. Qu'est-ce que vous feriez face à un éléphant, à un lion ou à un tigre? On n'en mène pas large, n'est-ce pas? On est loin d'être les plus beaux, avec notre grand nez, nos deux oreilles, face à un paon qui fait la roue, par exemple, à un martin pêcheur, à un colibri. Vous voyez, par nous-mêmes, nous ne sommes vraiment pas grand-chose dans cette création incroyable. Puis, après nous avoir montré notre insignifiance, David montre notre gloire. Versets 6 à 9. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les courants marins. Il nous montre, vous voyez, que en même temps, nous sommes une infime poussière et nous sommes des êtres glorieux, parce que Dieu nous a donné cette gloire. Dans tous ces versets, il est dit tu, en parlant de Dieu. Oui. Dieu a fait de ces infimes poussières que nous sommes des êtres glorieux parce qu'il nous a placés comme étant le couronnement de sa création. On a été créés au sixième jour comme la dernière des créatures. On a été créés comme des êtres qui sont à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire qu'il nous a donné une âme, qu'il a placé en nous son souffle de vie, afin que nous soyons les seules créatures dans l'univers entier capables d'entrer en relation avec lui. Il nous a placés dans ce jardin magnifique, enfin il a placé Adam dans ce jardin magnifique, ce jardin d'Éden, en lui donnant pour responsabilité de le garder et de le cultiver. Et il devait exercer cette responsabilité comme un acte de culte envers Dieu. Parce que les mots « garder » et « cultiver » qu'on trouve dans Genèse 2 sont ceux qui sont retrouvés plus tard dans le service du tabernacle, dans le temple. C'est-à-dire que l'homme devait agir dans le jardin, récolter ses légumes, cultiver le jardin dans un acte de reconnaissance envers Dieu, de soumission à Dieu. Voyez, Dieu a fait de nous des êtres à part dans la création. même si nous sommes infiniment petits, nous avons une valeur immense aux yeux de Dieu, parce que c'est lui qui nous a donné cette place, donné cette valeur au sein de la création. Et l'homme, Adam, notre père à tous, aurait dû vivre dans une relation harmonieuse de soumission à Dieu dans cette création. Et David ici ne considère que l'homme dans sa création. Et on pourrait se dire, voilà, maintenant on a vu, on peut terminer ce psaume avec le cadre qui est autour et puis la prédication est terminée. Mais en fait, ce qui est frappant, c'est que quand on considère les citations que le Nouveau Testament fait du psaume 8, il applique chaque fois ce psaume, pas à l'homme en tant que créature comme nous, mais il l'applique à Jésus-Christ. Chaque fois. Donc, il me semble qu'on a là une piste qui nous pousse à réfléchir et à se dire, mais alors, si ce psaume nous parle de Jésus-Christ, on doit essayer de voir comment est-ce que ce psaume nous conduit à Jésus-Christ. C'est pourquoi, avant de considérer notre cadre, on doit réfléchir aussi à ce qui s'est passé après la création de l'homme. Ça ne nous est pas décrit dans ce psaume ici, mais c'est ce qu'on appelle la chute, c'est-à-dire l'entrée du péché dans le monde. Adam vivait dans un paradis extraordinaire. Créé par Dieu, tout était parfait et en harmonie. Mais il a décidé de se révolter contre Dieu. Il a décidé de ne pas accepter cette place de créature soumise à Dieu. Et c'est ainsi que le péché est entré dans le monde. Parce que le péché, c'est la révolte contre Dieu. C'est le refus de se soumettre à Dieu, le refus d'accepter la place insignifiante et glorieuse que Dieu nous a donnée. Adam a désobéi au seul commandement que Dieu lui avait donné. Dieu lui avait dit, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il en a mangé et il a entraîné l'humanité dans la désobéissance avec lui. La mort spirituelle l'a frappé, la rupture avec Dieu. La mort physique a commencé à agir en lui jusqu'à ce qu'il meure quelques centaines d'années plus tard. Mais il est devenu mortel tout à coup, à cause de sa désobéissance. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui dans notre monde. Nous vivons, nous, dans ce monde qui est à la fois glorieux, mais à la fois aussi cruel. À cause de la mort, de la méchanceté, de l'égoïsme des hommes, l'homme a commencé à devenir un loup pour l'homme, à devenir méchant l'un avec l'autre. L'homme a commencé à oppresser la femme a commencé à se révolter. L'homme a commencé à abuser des ressources de la création. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui encore. Mais ce psaume n'en parle pas. Mais c'est une réalité que nous constatons jour après jour. Si j'en parle, c'est parce que les citations du Nouveau Testament, dont je vous ai dit de ce psaume, font allusion à Jésus-Christ et pas à nous. Et c'est ce qui nous conduit alors au point suivant de cette prédication. On a vu qu'est-ce que l'homme ? Son créateur. Qu'est-ce que l'homme ? Sa création, insignifiant et glorieux. Qu'est-ce que l'homme ? Sa chute. Le péché est entré dans le monde. Qu'est-ce que l'homme maintenant, quatrième point, sa rédemption, son salut. Comment est-ce que Dieu est venu le sauver dans cette situation de péché et de misère? Et on va se pencher sur ces trois citations du Nouveau Testament qui sont faites de ce psaume 8. D'abord, venez avec moi dans l'évangile de Matthieu, le texte qu'on a lu tout à l'heure. Matthieu chapitre 21, et nous lirons, c'est le verset 16 en fait. Matthieu 21, verset 12 et suivant. On va pas les relire, mais je vais vous les expliquer. Jésus vient d'entrer à Jérusalem. C'est la dernière semaine avant sa mort à la croix. Il a chassé les vendeurs du temple qui avait donné au temple un sens qui était faux en faisant du marchandage dans le temple. C'est ce qu'il nous a dit dans les versets 12 et 13. Puis, verset 14, il a guéri des aveugles et des boiteux qui étaient là dans le temple. Et les chefs des Juifs, non, et puis verset 15, des enfants commencent à louer le Seigneur. Regardez verset 15. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des merveilles qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna, au fils de David !» Donc Jésus, vous voyez, il a chassé les vendeurs, il a guéri les malades, les boiteux dans le temple, et les chefs des Juifs se fâchent parce qu'ils voient des enfants qui acclament Jésus. Et puis ils viennent vers Jésus, au verset 16, et lui disent « Mais t'as entendu ça ?» Sous-entendu, mais fais-les taire, ces enfants, plutôt que de les laisser crier là dans le temple, dans la maison de Dieu. Toi qui as chassé les vendeurs, maintenant fais taire ces enfants. Et au contraire, vous voyez, plutôt que de faire taire les enfants, Jésus cite le psaume 8 et il dit, milieu du verset 16, « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Ce que Jésus est en train de faire, là, vous voyez, il prend un verset qui était appliqué à Dieu et il se l'applique à lui-même. Il est en train de dire face à ses chefs des Juifs, « Mais mes chers amis, je suis Dieu. Je mérite d'être adoré et glorifié par ses enfants. » Parce que je suis vraiment Dieu. Donc, ce que Jésus est en train de faire ici, avec cette première citation du Nouveau Testament, il est en train de nous dire, « Je suis Dieu venu parmi les hommes. Et je suis celui que toute la création exalte. Et je suis venu parmi les hommes. » Puis, si on va à la deuxième citation, dans l'Épître aux Hébreux, Épître aux Hébreux, au chapitre 2, versets 6 et suivants. Épître aux Hébreux, c'est assez à la fin de votre Bible, vous pouvez le trouver. Chapitre 2, versets 6 et suivants. Ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de démontrer que Jésus est vraiment Dieu et qu'il est supérieur aux anges. Mais pour ses lecteurs, ça les trouble un peu parce qu'ils pensent que Jésus est inférieur aux anges puisqu'il a pris un corps, il est venu dans notre humanité. Hein? Alors, en fait, voilà ce qu'il leur dit. Voyez, verset 5. « En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir... dont nous parlons. Mais quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme... » Et là, il cite le psaume 2. Hein? « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes... » psaume 8, pardon. Psaume 8, excusez. « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait pour un peu de temps inférieur aux anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as établi sur les œuvres de tes mains. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En lui soumettant ainsi toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. Ce qu'il est en train de nous dire, oui, c'est vrai. Dans un sens, Jésus est devenu inférieur aux anges parce qu'il a pris un corps comme nous. Il est venu dans notre humanité. Il est devenu lui aussi, on pourrait dire, un être insignifiant comme nous. Parce qu'il fallait qu'il vienne nous chercher dans notre misère pour nous ramener, nous réconcilier avec Dieu le Père. Vous voyez ? Il nous montre l'immensité de l'amour de Dieu, de l'amour du Christ. Il a quitté la gloire du ciel pour venir comme une infime créature dans cette création qu'il avait créée lui-même, afin de racheter un peuple nombreux et afin de nous ramener à la gloire. Il l'a fait par sa mort et par sa résurrection et par son ascension. C'est pourquoi il nous dit, mais on ne le voit pas vraiment encore complètement aujourd'hui. Parce que des fois, on se dit, mais il est où Jésus ? Mais on le contemple avec les yeux de la foi. Avec les yeux de la foi, nous savons qu'il est ressuscité et qu'il est maintenant assis à la droite de Dieu et qu'il y a dans ce sens-là maintenant un homme de même nature que nous, assis à la droite de Dieu et qui nous assure que tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui ont été sauvés par lui, seront un jour réconciliés avec Dieu et seront à leur tour à la droite de Dieu. C'est pourquoi, un peu plus loin, dans ce même passage d'Hébreux 2, il nous dit, verset 11, « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, c'est la raison pour laquelle il, Jésus, n'a pas honte de les appeler frères. » Voyez, Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Parce qu'il nous a aimés au point de venir dans notre humanité afin d'écraser le diable, notre ennemi, afin de porter la condamnation du péché que nous méritions à la croix et de nous transporter avec lui ensuite dans les cieux. C'est ce qu'il nous dit dans les versets suivants, toujours dans ce passage de l'Épître aux Hébreux, quand il dit au verset 15, « Et de délivrer tous ceux qui par crainte... » ou même verset 14, excusez. « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Car ce n'est pas à des anges qu'il est venu en aide, mais à la descendance d'Abraham. » Vous voyez ? C'est pour vous venir en aide, mes chers amis, pour nous venir en aide, que Jésus a accepté de venir dans cette humanité. C'est par la croix qu'il a écrasé le diable qui nous tenait captifs et qui nous a libérés de la condamnation. Et c'est ce qu'il cherche encore à démontrer quand il, dans 1 Corinthiens 15, c'est ce que Paul affirme dans la troisième citation qui se trouve dans 1 Corinthiens 15, et en particulier le verset 27. 1 Corinthiens 15, verset 27, où Paul cite ce psaume 8 à nouveau et nous dit « Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. » Mais lorsqu'il dit que tout a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et verset 26, « Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » Christ est venu pour triompher de la mort physique, la mort spirituelle. Parce qu'un jour, nous serons, nous qui croyons, avec lui dans la présence de Dieu, rétablis dans cette communion étroite et extraordinaire avec Dieu. Alors voyez cette chose extraordinaire par ces citations du Nouveau Testament. Nous découvrons que, en fait, c'est Jésus le vrai homme. Qu'est-ce que l'homme? Demandait ce psaume. Et Pilate répond, quand il va condamner Jésus à mort, voici l'homme. Voici l'homme. Jésus est l'homme véritable, parce qu'il est celui qui a obéi au Père toujours, partout et en tout. Adam aurait dû l'être, et il s'est révolté. Mais Jésus est venu comme dernier Adam dans notre monde. Et lui, il a obéi jusqu'au bout. Dieu l'a envoyé dans cet état de faiblesse, d'insignifiance, pour nous racheter de nos péchés. C'est pourquoi l'évangile, voyez, consiste à venir à Christ. C'est pourquoi si aujourd'hui vous êtes encore en train de vous dire « Qui suis-je? Où vais-je ?» La réponse se trouve en Christ. Venez à Christ, c'est lui l'homme véritable. C'est lui qui va vous réconcilier avec Dieu. Vous êtes conscient de votre péché, de votre égarement? Christ est celui qui est venu pour vous sauver. Approchez-vous de lui. Et vous allez tout à coup, si vous venez à lui de cette manière, dans la repentance, dans la foi, trouver votre place dans ce monde. Plusieurs d'entre nous ont fait cette expérience déjà, dans ce lieu ici, n'est-ce pas? On ne savait pas où on allait, on ne savait pas ce qu'on était, et en s'approchant du Christ, tout à coup, on a trouvé le sens à la vie. Notre place dans la création. On a compris que la création n'est pas un coffre-fort à dévaliser, ni un Dieu à adorer, mais qu'elle est un jardin à entretenir, à admirer. Parce que toute la création, quand on la contemple, nous conduit à rendre gloire à Dieu. Quand on a compris que Dieu est vraiment notre Créateur et notre Sauveur en Jésus-Christ. C'est pourquoi les chrétiens devraient être parmi ceux qui aiment le plus la création. Qui s'en préoccupent parce qu'elle est le jardin de leur Père. Parce qu'elle nous parle de Dieu. Elle nous montre Dieu. Sa puissance incroyable quand on considère cet univers, mais en même temps, sa précision incroyable quand on considère l'infime, l'organisation des choses les plus infimes dans cet univers. Qu'est-ce que l'homme? Et maintenant, on peut terminer avec ce cadre, ce dernier point que nous trouvons dans les versets 2 et 10. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et quand on comprend maintenant un petit peu ce que c'est que nous sommes, des créatures insignifiantes, mais qui ont reçu toute leur valeur de Dieu, des créatures qui sont révoltées, mais que Dieu a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde afin de sauver un peuple innombrable qui le célèbre pour l'éternité, on ne peut que répondre avec ce cadre comme David. Seigneur, notre Seigneur éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Le nom, dans la pensée hébraïque, dans la culture hébraïque, c'est le caractère, c'est tout ce qu'une personne est. Après avoir médité sur l'homme, David en arrive à la conclusion. Il dit que ton nom est magnifique. C'est-à-dire que tu es glorieux, que tu es digne de louange, que tu nous émerveilles, tu nous rassasies d'émerveillement. Ô notre Dieu, tu es magnifique quand on contemple ton œuvre de création, tu as créé un univers dont nous n'arrivons même pas à voir les limites. Tellement il est grand. Tellement il est infiniment petit. Tu nous as créé avec une âme qui nous permet de nous approcher de toi, de te parler, d'être en relation avec toi. Tu es magnifique quand on contemple ton œuvre de rédemption aussi. Tu nous as aimés au point de venir toi-même parmi nous. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est là le titre donné à Jésus-Christ. Tu l'as fait pour nous rétablir dans notre communion avec toi. Et nous pouvons te dire maintenant, Éternel, notre Seigneur, ou Éternel, mon Seigneur. Vous vous rendez compte de ça? Des créatures aussi infimes qui peuvent dire au Créateur, tu es mon Seigneur, tu es mon Maître. Est-ce que le Créateur de l'univers est vraiment votre Maître? Est-ce qu'il est votre Seigneur? C'est en Christ seul que vous pouvez trouver la réconciliation avec lui. Alors approchez-vous de lui. Nous l'avions perdu en Adam. C'est en Christ que nous trouvons le salut et la paix avec Dieu. Voilà ce qu'est l'homme, une créature infime, insignifiante et glorieuse, réconciliée avec Dieu en Christ. Alors venez à lui, afin de pouvoir à votre tour devenir des adorateurs de Dieu dans son jardin. Amen.